Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. N'en déplaise à Viktor Orban, le référendum qu'il a organisé s'est soldé par une défaite à forte portée symbolique. Certes, tous les Hongrois qui se sont déplacés dimanche ont voté massivement à plus de 98% contre la relocalisation des réfugiés en Europe, mais faute de participation, le scrutin est invalide. Contre toute attente, les Hongrois ont donc boudé la politique prônée par le Premier ministre, ce dont s'est félicité l'opposition lors d'une petite fête organisée en flash mob à Budapest. Richard Parapas était présent.
Nous, les partis d'opposition, nous avons été accusés d'être contre les institutions démocratiques parce qu'on appelait au boycott et qu'on disait aux gens de ne pas participer. Et maintenant qu'ils voient que leur campagne de haine n'a pas réussi à convaincre le pays, ils reviennent sur leurs déclarations. C'est clairement un échec pour Orban.
Propos recueillis par Florence Labruyère.
And Mrs. May, from one grammar school girl to another. The faff.
Et nul doute qu'au Royaume-Uni, la nouvelle patronne des populistes de UKIP a suivi attentivement ce référendum. Le leader hongrois et sa politique anti-migrant est regardé avec la plus grande bienveillance par Diane James, élue il y a 15 jours en remplacement de Nigel Farage. L'ancienne analyste financière est une farouche nationaliste anti-immigration. Son portrait avec Marie Billon.
Cette députée européenne au passé d'analyste financière est une proche de Nigel Farage, mais elle a prévenu dès son discours d'intronisation, elle ne sera pas sa version féminine. Pourtant, elle n'a pas hésité à multiplier les provocations dès sa première intervention. Elle a surnommé ceux qui ont voté contre le Brexit de « Remainiacs », des fous du maintien dans l'UE, et elle a traité la première ministre Theresa May de « pivoleuse » piquant son programme de gouvernement au UKIP. Diane James a également eu la dent dure avec ses anciens opposants à l'élection interne. Dès qu'elle a été élue, elle a annulé l'intervention de l'un d'eux à la conférence du parti. La nouvelle chef du UKIP, qui dit ouvertement admirer Vladimir Poutine, semble vouloir mener son parti d'une main de fer. Elle veut en faire une machine à gagner, continuer à attirer les déçus du Parti travailliste et devenir la principale formation d'opposition. Elle devra d'abord cependant stopper l'hémorragie de nombreux UKIPers qui rejoignent le camp des conservateurs, ceux qui sont au gouvernement et qui ont la charge de faire du Brexit une réalité. Car le UKIP n'a encore qu'un seul député au Parlement et en plus Diane James ne s'entend pas du tout avec lui. La nouvelle patronne du UKIP entretiendrait elle par contre l'idée de se présenter dans la circonscription que David Cameron, l'ex-premier ministre, vient juste de quitter. Elle aura toutefois du mal à faire oublier un dérapage lorsqu'elle avait mené campagne en 2013 pour une élection anticipée. Elle avait dû s'excuser après avoir évoqué la délinquance associée aux Roumains. Avec sa nouvelle chef, le UKIP ne semble donc pas avoir mis fin à l'ère des polémiques, mais Diane James n'a ni le bagou ni la personnalité de Nigel Farage. Il va donc falloir qu'elle fédère ses supporters autrement.
Des migrants, des réfugiés, il y en a massés de l'autre côté de la Manche, à Calais, qui aimeraient bien rejoindre le Royaume-Uni. Mais c'est de plus en plus difficile pour les 7 à 9 000 personnes qui s'entassent dans la jungle de Calais. Il y a une semaine, le président François Hollande annonçait le démantèlement complet de cette jungle. Si la moitié du camp a déjà été évacué, des dizaines d'exilés continuent d'y arriver tous les jours. Et la vie sur place est précaire. Reportage Alice Posicki.
Enjoy your meal. Dans de grands bacs en plastique, du riz, une préparation à base de haricots et de la salade composée. Les assiettes se remplissent rapidement. À la chaîne, c'est l'heure de la distribution du repas. Des dizaines d'hommes et de femmes attendent en file indienne de récupérer leur assiette. Pour beaucoup, ce sera le seul repas du jour. Bronia vient d'Allemagne, elle porte un tablier. La jeune femme s'occupe de la distribution alimentaire pour l'association britannique Refugee Community Kitchen.
En ce moment, on sert à peu près 2500 repas par journée. Depuis décembre, c'est en train d'augmenter constamment. Surtout les dernières semaines, c'est en fait chaque jour qu'on ramène un peu plus de nourriture parce qu'il y a plus de...
Depuis le début de l'été, plusieurs dizaines d'exilés affluent chaque jour dans le bidonville. C'est le cas d'Ali Amadzai, un Afghan de 27 ans, arrivé il y a un mois. Ali attend que son ami finisse de préparer le petit déjeuner. Un plat à base d'oignons, de tomates, de haricots rouges revenus dans une généreuse dose d'huile. Ce rituel du matin, les deux Afghans s'y adonnent dans leur cabane en bois. Aucun doute pour eux, l'endroit est plus rassurant qu'une tente, mais aux yeux d'Ali, cela reste insuffisant.
Bon, chaque seconde, il y a une possibilité pour la mort, pour la bagarre. C'est jungle, là. C'est jungle. Tu trouves n'importe quel animal. C'est comme dans la jungle. Il y a trop de nationalités. Afghans, Élytiens, Éthiopiens, Soudan, Irakiens.
Autant de nationalités qui cohabitent tant bien que mal sur une surface réduite, car en mars dernier, le gouvernement a démantelé la partie sud du bidonville de Calais. Depuis, la situation est devenue plus difficile, explique François Guénoc de l'association L'Auberge des Migrants.
Il y a presque le double de personnes sur à peu près 35% de la surface initiale. On n'a plus de place pour installer des tentes, les gens s'entassent les uns sur les autres, avec donc des risques importants de conflits, des tensions, mais aussi des risques d'incendie sérieux. Les communautés qui avaient réussi sur l'ancien bidonville à peu près à se partager le territoire, aujourd'hui sont très mélangés. Donc en résumé, il y a une situation de plus forte tension sur le camp et des moins bonnes conditions de vie qu'il y a un an.
Situé aux portes de la Grande-Bretagne, Calais est un lieu de transit pour ceux qui veulent passer en Angleterre. Dans la jungle, ils sont pourtant de plus en plus nombreux à abandonner leur rêve d'Eldorado britannique. Frontières sécurisées, passeurs toujours plus chers, les raisons ne manquent pas et les exilés, épuisés par leur voyage, finissent par se laisser convaincre de rester en France. Nassir Amri est de cela.
Au début, je voulais aller à Londres, mais un ami m'a encouragé à rester ici, parce que c'est vraiment dangereux d'aller au Royaume-Uni. C'est ce qui m'a motivé à rester en France.
Nassir ne veut pas rester dans la jungle. Depuis deux jours, il essaye de se rendre en centre d'accueil et d'orientation, une solution proposée par le gouvernement français, mais les places sont chères. Trois fois par semaine, un bus emmène une poignée de migrants vers ces centres. Ce jour-là, ils sont près de 300 candidats au départ pour seulement 30 places. Une situation que ne tolère plus cet Afghan.
C'est une blague. Tu viens ici tous les jours. Ils disent « Ok, toi tu viens. Toi aussi tu viens. » Ce n'est pas pour aider les réfugiés, ça. C'est pour pouvoir dire « Regardez, nous agissons. » Mais c'est un mensonge. C'est dangereux. Quelqu'un comme moi pourrait faire des choses dangereuses. Si quelqu'un se met en travers de mon chemin, je le repousserai. J'ai pris ma décision. Je vais faire ce que je dois faire. Je vais franchir la ligne rouge. Je vais franchir la ligne rouge.
Ni cet homme, ni Nassir ne seront finalement choisis pour monter dans le bus. Eux et tous les autres devront suivre les ordres de la police et retourner dans la jungle de Calais.
Go.
Pourquoi peut-on un jour décider de tout quitter et partir en Syrie? C'est ce que tente d'expliquer Laura Passoni, 30 ans, dans son livre « Au cœur de Daesh avec mon fils ». Il y a deux ans, après un chagrin d'amour, cette Belge originaire de Charleroi est partie en Syrie avec son fils de 4 ans et son nouveau mari rencontré sur Facebook deux mois plus tôt. Une fois sur place, Laura Passoni déchante et après deux tentatives réussit à fuir. De retour en Belgique, elle est condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Elle souhaite aujourd'hui faire de la prévention. Lakshmi Lotha l'a rencontré.
Laura Passoni, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez décidé de partir en Syrie en mars 2014 pour y suivre votre mari avec votre fils de 4 ans. Pourquoi cette envie à l'époque ?
Dû à ma déception amoureuse, j'ai voulu partir. Dû qu'on m'a vendu du rêve, le recruteur m'a vendu du rêve. Je voulais aider le peuple syrien, je voulais être infirmière, ce qu'on m'avait dit, au fait, en clair. Et je pensais que là-bas, c'était vraiment pour les aider et que les djihadistes étaient des héros. Donc, je me suis dit, après ma rupture aussi, je reprends ma vie à zéro là-bas, quoi.
Vous a montré des images de rêve.
Voilà, tout à fait. Par exemple, des femmes au marché, solidaires, la foire avec les enfants qui allaient à l'école, tous ces petits genres de choses.
Des fausses images.
Voilà, des fausses images qui font rêver.
Pourtant, vous saviez à l'époque que c'était un pays en guerre. Vous pensiez vraiment pouvoir y vivre bien?
En fait, moi, oui, parce que je pensais que c'était complètement différent. C'est-à-dire, on m'avait dit que j'étais dans une ville sécurisée et que... Je savais bien qu'il y avait la guerre, bien sûr, mais que c'était un petit peu plus loin. Vous voyez qu'il n'y avait pas tous ces bombardements sur moi.
Vous aviez connaissance de l'organisation État islamique ?
À ce moment-là, très peu, en fait. Parce qu'on me la présente vraiment comme des héros pour se battre et pour le peuple syrien.
Vous avez passé 9 mois en Syrie, sur place. Qu'y avez-vous vécu qui vous fasse changer d'avis, finalement, et vous donne envie de revenir à tout prix en Belgique ?
Donc moi, ça a été très vite. J'ai vu déjà tout ce qu'il m'avait promis, c'était faux, tout ce qui était mensongère. Et puis moi, c'est beaucoup mon fils, en fait. J'ai vu d'autres garçons plus grands, comment ils étaient devenus. Et je me dis, je ne voulais pas que mon fils devienne comme ça. Je ne voulais pas qu'il devienne terroriste. Je ne voulais pas qu'il fasse un attentat suicide. Moi, je n'étais pas venue pour ça. Donc ma priorité, c'était mon fils, le faire partir de là. Puis mon bébé qui était dans mon ventre aussi, qui se passait très mal la grossesse. Et puis tout ce qui est aussi moi, ma liberté, l'hygiène, on meurt de faim, je peux pas sortir quand je veux. Et c'était pas la vie que je voulais.
Rien à voir avec les images d'un rêve, en fait.
Voilà, tout à fait, c'est totalement différent. Et c'est pour ça que beaucoup de Suisses font piéger par rapport à ce rêve qu'ils disent, et qui est faux, en fait. Et quand ils sont là-bas, ils sont piégés, ils savent plus revenir. Les femmes ne peuvent pas sortir sans leur mari. Donc, on sortait, mais faire les courses, mais c'est pas comme maintenant quand on vit d'aller se balader entre copines. Non, rien, on était vraiment libre qu'à procréer, à faire des enfants, à se taire et à se propager le peuple.
Vous écrivez sur la couverture de votre livre à l'attention des femmes, des filles qui pourraient avoir envie de partir en Syrie, n'y allez pas. Mais est-ce que vous pensez maintenant, avec le recul et en vous remettant dans le contexte d'il y a 2 ans, que si quelqu'un vous avait dit n'y allez pas, vous l'auriez écouté ?
Bien sûr, en fait. Moi, mon erreur, c'est de ne pas avoir en parlé, ne pas avoir m'informé plus que ça. Et c'est pour ça que je me dis, si j'en parle, peut-être que d'autres filles n'ont pas envie de parler à sa famille ou à des amis. Et peut-être que ma parole, elle l'écoutera et qu'elle réfléchira et qu'elle se dira, ben non, je partirai pas.
Ce livre, c'est aussi un témoignage pour votre fils. Qu'est-ce qu'il dira quand il aura l'âge de le lire, à votre avis ?
Donc maintenant, mon fils le sait que je fais un livre, hein, parce que j'en ai demandé son avis, parce que je voulais savoir ce qu'il en pense. Quand il me voit dans le journal ou à la télé, il est très fier de sa maman, parce qu'il me dit que voilà, c'est pour le bien. C'est un enfant de 6 ans à ce moment-là. Ils font des mots de garçon, de dire « Maman, elle fait le bien ». Et bien sûr, pour eux, plus tard. Et pour mon deuxième fils aussi, qui aura besoin de son vécu aussi là.
Est-ce que vous pensez qu'on puisse se déradicaliser ?
Se déradicaliser, oui. Je le pense vraiment. Quand il faut prendre vraiment conscience aussi des choses. Comme moi, j'ai pris conscience que ce qu'ils font n'était pas bien. J'ai ma famille derrière, mes enfants. Et voilà, tout ce qu'ils font, c'est que mensonge. Ils prennent des versets de Coran qui le modifient à leur façon. Et l'islam, c'est pas ça. En fait, c'est pas tuer des innocents.
Les remarques que l'on peut lire sur Internet après des articles vous concernant sont assez violentes, méfiantes. Est-ce que vous avez pu reprendre une vie normale, entre guillemets ?
C'est vraiment pour témoigner, et c'est vrai que les gens, j'espère qu'ils vont me donner une deuxième chance, parce que je veux vraiment faire cela. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais voilà, j'assume.
Laura Passoni au micro de Lax Milota. Depuis la guerre dans le Donbass, les hôpitaux de l'Est de l'Ukraine souffrent de pénurie, encore plus qu'avant. Il manque de tout, de médicaments, de médecins, de matériel. C'est le cas à Roubijné, dans la région de Luhansk, sous contrôle ukrainien. Et c'est le reportage de Sébastien Gobert.
Dans la cage d'escalier, le plafond s'effrite depuis des années. À l'étage, les patients attendent sur des bancs en plastique défoncé. L'appareil de radiologie date des années 1970. Le laboratoire d'analyse est rempli d'ustensiles rouillés. Les résultats sont rédigés sur des carnets de papier. Ne cherchez pas d'ordinateur ici. C'est le docteur Konstantin Jogan qui fait la visite de l'hôpital de région de Roubijné.
Nous avons déjà eu des visiteurs étrangers qui nous ont demandé où ils étaient tombés, dans un hôpital ou dans un musée.
C'est bien un hôpital, l'un des principaux dans l'est de l'Ukraine. Roubijné est à 100 km au nord de Lugansk, l'ancienne capitale de région, aujourd'hui place forte des séparatistes pro-russes. La zone est industrielle et très densément peuplée. Les nombreux départements de la clinique couvrent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Édouard Kravchenko en est le médecin en chef.
Nous avons des soucis d'approvisionnement de médicaments et de matériel médical. À cela s'ajoute un équipement dépassé. Et les médecins ne veulent pas travailler ici. Il nous manque 30% de docteurs. C'est dans ces conditions qu'il nous faut assurer des soins décents pour la population locale.
Et depuis 2014, tout s'est compliqué pour l'hôpital.
À cause de la guerre, nous nous sommes retrouvés dans des situations que nous n'avions jamais imaginées. Avant, nous avions l'hôpital de région de Louhansk et nous transférions tous les cas sérieux là-bas. Maintenant, c'est bien plus difficile. Soit nous les traitons ici, soit les patients sont envoyés à plusieurs centaines de kilomètres vers Kharkiv ou autre. Il faut comprendre que nous avons moins de moyens pour soigner plus de gens, car les personnes déplacées par la guerre viennent chez nous.
Я думаю, это отражается и на качестве оказываемой там медицинской помощи.
L'une de ces personnes déplacées, c'est Olena Senaya, originaire de Pervomaïsk, un des centres des troupes cosaques pro-russes. Elle s'est réfugiée à Roubigné avec ses enfants.
J'étais infirmière avant. Les conditions d'hygiène qu'il y a ici en pédiatrie, je n'avais jamais vu ça avant.
Olena Senaya bénéficie de l'aide du fonds d'Alexander Romanovski, une association humanitaire locale. Là où les organisations internationales se concentrent sur l'urgence de la guerre, le fonds s'attaque aussi à des problèmes profondément enracinés dans la région. Dmitro Boutko, l'un des représentants de l'association.
L'oblast de Louhansk a toujours été au bord de la catastrophe humanitaire. Aujourd'hui, à cause de la guerre, ça a empiré, évidemment. Mais il faut comprendre que la région est défavorisée depuis longtemps. Nous avons toujours eu d'énormes problèmes d'environnement, de santé.
Des problèmes qui, avec la guerre, deviennent de véritables risques pour la santé publique, dans une région où vivent entre 3 et 6 millions de personnes. Pourtant, le gouvernement central n'alloue aucune ressource supplémentaire à l'hôpital de Roubigné. Les financements sont toujours attribués sur la même base qu'avant la guerre. Édouard Kravchenko, médecin en chef, se sent oublié de la capitale.
Le cœur du problème réside dans ce que veut vraiment le gouvernement central. Quel prix donne-t-il à la vie humaine? Qu'est-il prêt à faire pour le système de santé dans le pays?
Une de ses stratégies est de développer des partenariats avec des donateurs internationaux. Mais quand on lui demande quels sont ses besoins prioritaires, la réponse est lapidaire.
Ça irait plus vite de vous dire ce dont on n'a pas besoin.
L'humanitaire Dmitro Boutko ne désespère pas et s'efforce de trouver des partenaires pour l'hôpital.
Et c'est pour ça qu'on doit développer un système rationnel de distribution de l'aide humanitaire et de l'assistance aux hôpitaux afin que l'on puisse atteindre ceux qui en ont besoin.
Dans une région bouleversée par un conflit qui perdure, il est difficile de définir des priorités. Il semble que tout le monde a besoin de quelque chose. Mais la déliquescence du système hospitalier pose des problèmes qui, petit à petit, peuvent avoir des conséquences désastreuses.
C'est l'une des conséquences du coup d'État avorté du 15 juillet. Les femmes sont absentes des plateaux télé en Turquie. Les chaînes ont pris la mauvaise habitude de les écarter des émissions politiques. Anne Andlauer nous appelle d'Istanbul.
Ce qu'on entend là, c'est l'extrait d'une émission politique diffusée quotidiennement en deuxième partie de soirée sur la chaîne CNN turque. Une émission très regardée malgré l'heure tardive, avec un panel d'invités, des discussions houleuses et des thèmes un peu plus sérieux, des suites du coup d'État manqué à l'intervention en Syrie, en passant par le risque d'attentat. Sur le plateau, 6 hommes, journalistes, chercheurs, anciens policiers, députés, et une femme, la présentatrice. La scène n'a rien d'exceptionnel. Elle se répète chaque soir sur les chaînes privées et publiques qui diffusent ces débats dont les Turcs sont friands. L'absence de femmes dans les émissions dites sérieuses, où les participants sont invités à partager leur avis et leur expertise, n'est pas une nouveauté. Mais depuis le putsch manqué, où les questions sécuritaires ont pris le pas sur tout autre sujet, elles sont tout bonnement invisibles. Pourtant, les médias, les universités et même la vie politique turque ne manquent pas d'expertes qui seraient ravis de s'exprimer. Mais leur téléphone ne sonne pas et le taux de testostérone continue de faire des pics sur les plateaux télé. Boudées sur le petit écran, les femmes turques débattent sur les réseaux sociaux. Et certaines s'indignent. Fin août, une activiste a lancé sur Twitter le mot-clé « Sölferkek Panel », qui signifie « panel 100% homme ». La campagne a pris de l'ampleur, a été relayée par certaines éditorialistes et s'est transformée en appel au boycott. Un appel aux femmes à ne plus regarder les émissions qui veulent les cantonner au rôle de spectatrices de la vie politique, leur déniant le droit de la commenter et donc d'y participer. Et un appel aux hommes, lesquels sont priés de ne plus participer au programme télévisé qui n'aurait pas au moins une femme sur le plateau. La présentatrice ne compte pas.
À la réalisation d'Accent, il y avait comme tous les jours Françoise Grelot et vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.